principe actif. Une rediff, quoi.
J'ai entendu l'histoire de...
Miles Davis, John Coltrane, Stan Getz.
Comment ils vécurent, comment ils sont morts.
Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore?
Eh bien, écoutez Stop Chorus et...
On vous en racontera bien plus.
Bonjour à tous.
Bonjour, bonjour.
Donc voici pour ce beau dimanche, une nouvelle émission sur les guitaristes de jazz. Donc là, numéro 2, hein, voilà. Et donc aujourd'hui, eh bien, on va donc reparler un petit peu sur des guitares, hein, voilà. Et donc on va vous parler de Lester Williams Paul Fuss, qui est plus connu sous le nom de Les Paul. Alors, il est né en juin 1915 dans le Wisconsin. Il est mort en 2009 dans l'État de New York. Alors, Les Paul est un inventeur et un guitariste américain qui a joué un rôle important dans le développement des guitares électriques à corps plein. C'est-à-dire, vous savez, il n'y a pas de caisse creuse dedans, voilà, hein. Les techniques d'enregistrement multiples et les divers systèmes d'effets spéciaux sonores, tels que les chambres d'écho et de réverbération. Voilà, il a inventé tout ça. Il participe au début des années 50 à la création de la guitare électrique produite par la marque Gibson et qui porte son nom.
Ah oui, formidable guitare. Beaucoup des plus grands enregistrements. Bizarrement, cette guitare est utilisée dans le rock et le blues. Et Eric Clapton a commencé sur une Les Paul et tout.
Tous les guitaristes rêvent d'avoir une Les Paul.
Oui, Freddie King, Peter Green avait un son fabuleux. Avec la fameuse Les Paul.
Alors, à 9 ans, sa mère lui fait prendre des cours de piano. Mais selon sa biographe, Marie Sonnessy, son professeur le renvoie à la maison après quelques leçons, avec un mot pour sa mère disant « Chère Madame Paul Fuss, votre garçon Lester n'apprendra jamais la musique. Gardez votre argent. S'il vous plaît, ne me l'envoyez plus pour aucune leçon. »
C'est terrible parce que quand on entend Les Paul, c'est terrifiant les dons musicaux qu'il a, ce gars-là.
Mais peut-être que sa prof de piano n'avait pas beaucoup de dons.
je pense que c'est ça.
Donc à 13 ans, il est déjà musicien semi-professionnel et à 17 ans, il rentre dans le Rube Thompson Cowboys, un orchestre régional de musique country. Et peu de temps après, il quitte l'école et devient musicien professionnel. Donc dans les années 30, Les Paul est d'abord engagé dans le Wolverton Radio Band, c'est un orchestre de la station de radio à Saint-Louis, dans le Missouri. Il s'installe ensuite à Chicago, où il commence une carrière de musicien de studio. Et dans le même temps, il joue et enregistre de la musique de style Hillbilly, sous le pseudonyme de Rhubarb Bread. Il joue du jazz à la station de radio Wind et accompagne à l'occasion des artistes de blues. Et en 38, il va quitter Chicago pour New York, où il est engagé avec son trio comme musicien vedette dans l'émission de radio Fred Waring's Pennsylvanians. À cette époque, les stations de radio emploient beaucoup de musiciens et d'orchestres. La plupart des émissions musicales étant réalisées en direct. Et vers la fin des années 30, Les Paul n'est pas satisfait des guitares électriques alors disponibles. Ce sont des guitares jazz, acoustiques, électrifiées, difficiles à amplifier, sans engendrer d'importants problèmes de l'arsène. Vous savez, de l'arsène, c'est les bruits affreux qu'on entend
oui,
des fois.
Oui, parce qu'ils avaient des caisses de résonance, alors ça ne faisait pas du tout avec les micros.
Mais comme il est inventif et bricoleur, il se lance dans toutes sortes d'expérimentations pour trouver des solutions viables à l'amplification des guitares. Il avoue volontiers avoir massacré un grand nombre de guitares pour mener à bien ses expériences. Alors, je vais passer sur toute la partie technique de ses trouvailles. Il va travailler ainsi avec Epiphone, avec Fender et avec Gibson. en 48, victime d'un grave accident de la route. Et pour sauver son bras droit, les chirurgiens doivent l'immobiliser à l'aide de broches. Et l'Espol demande qu'on fixe son bras à angle, à un angle à 90 degrés, ce qui lui permet quand même de continuer à jouer de la guitare. Hein, faut vouloir. Bah, hein.
Comme bah. Django, hein, voilà, il avait calé les doigts à 90 degrés. Pour pouvoir faire les barrés.
Alors, je vous propose d'écouter un morceau. Donc, où il joue avec Paul Schaeffer. Et donc, c'est un morceau live on David Letterman. C'était une émission de télévision. Allez, on écoute ça.
Ladies and gentlemen, please welcome Les Paul.
Bon, peut-être pas très très inspiré, mais très beau son. Et je me demande s'il n'y a pas justement madame, c'est Marie Ford, c'est ça, voilà. Hein, sa femme. Parce que par moment, je me demande s'il n'y a pas deux guitares quand même.
Oui, mais l'autre, c'est pas Paul Schaeffer, justement.
Ah, peut-être. Ouais. Ah oui, ouais. Voilà, c'est pour ça qu'il n'osait pas trop jouer. Parce que... mais bon, c'est pour ça qu'on a voulu parler un peu de Les Paul, parce que quand même, il a fait un sacré boulot. Oui, dans tous les gens qui ont joué, là, qui ont dit son merveilleux, je repense à Paul Kossoff. Oh, mon Dieu, mon Dieu.
Donc en 49, comme disait Jean, Les Paul va épouser donc Marie Ford, qui était chanteuse, guitariste aussi. Et il va réaliser avec elle une série d'enregistrements en utilisant la technique de re-recording avec le magnétophone multipiste qu'il a mis au point. Donc dans les années 50, le duo va occuper une place primordiale dans la sphère music business grâce à ses émissions de radio et de télévision et ses succès discographiques. À la fin de la décennie, avec la déferlante du rock'n'roll aux États-Unis, évidemment le duo se voit un peu relégué à l'arrière-plan du monde du spectacle. Et en 63, le duo se dissout et Les Paul et Marie Ford se séparent et vont divorcer en 64. Mais en 52, Gibson va proposer un contrat commercial liant Les Paul à la compagnie afin de faire la promotion de la nouvelle et première guitare solid body de la marque, la Gibson Les Paul, qui fera donc la fortune de Les Paul. En 75, il est victime d'un infarctus du myocarde et d'un traumatisme crânien et va se retirer à Moho, dans le New Jersey, dans un immense complexe de studios et d'ateliers où il peut continuer ses expérimentations. Et donc si son œuvre a été marquée par l'influence de Django Reinhardt, il a lui-même fortement influencé d'autres artistes tels que les guitaristes Slash et Jeff Beck. Alors, Les Paul meurt le 12 août 2009 à l'âge de 94 ans de complications dues à une pneumonie. Tu voulais ajouter quelque chose, Jean?
Non, ben Slash et Beck, ils ont aussi joué sur des Les Paul.
Bah oui.
Beck est passé après à Fender, Slash je sais pas trop, mais sûr, il a joué sur des Les Paul.
Donc nous allons poursuivre notre route avec Talmadge Holt Farlow, dit Tal Farlow, né le 7 juin 1921 en Caroline du Nord et décédé le 25 juillet 1998 à New York. Alors bien que son père fût un musicien amateur, Tal ne commence la guitare qu'en 1942. Il joue quelque temps avec le pianiste Jimmy Lyons et pendant 6 mois, il joue à New York avec le trio de la pianiste Dardanelle, travaille aux côtés des guitaristes Bob Salvador et Jimmy René. Et en 1946, il commence à travailler avec la vibraphoniste Marjorie Yams, dont le trio se produisait en alternance avec le trio de Charlie Parker. Puis en 1948, il est embauché par Buddy DeFranco et ensuite par le trio de Ren Norvaux avec Charlie Mingus à la contrebasse. Il va intégrer aussi brièvement la Gramsci 5 du clarinettiste Artie Shaw. Donc là, je vous propose d'écouter tout de suite Yardbird Suite avec donc Tal Farlow, Bill Evans, Paul Motion, etc.
Bah, quelle interprétation de Yardbird Shoot, peut-être la plus belle composition de Charlie Parker. Et alors là, la rythmique d'enfer. Et on a même du mal à reconnaître Bill Evans. Hein. Moi, heureusement que tu le dis que c'est lui, parce que d'habitude, c'est un gars très réservé, Bill Evans. Mais là, il y va. Hein. Et puis, le gars, il joue quand même. Hein. Et Paul Mossian, oh nom de Dieu! Et en fait, il pousse Tal Farlow à y aller à fond la caisse, parce que lui, c'est plutôt jazz cool. Ben là, il met le paquet. Hein. Et quelle technique. puis c'est en place, c'est beau.
Alors, reconnu comme l'un des meilleurs guitaristes, Tal Farlow est récompensé par la revue Downbeat en 1954. Il va enregistrer plus d'une demi-douzaine d'albums sous son nom, pour Blue Note ou Verve, et entre avril 54 et décembre 59, année où il se retire de la scène du jazz pendant une dizaine d'années, il fait un comeback en 69 dans le cadre du Newport All-Star de George Wayne. Il va jouer au Framingham Club et fait de nouveau un break de 5 ans. À partir de 75, il va se produire régulièrement en tournée, notamment avec George Duvivier ou encore Tommy Flanagan. Et là, on vous propose d'écouter un autre morceau, enregistré en 1958, où il est accompagné de Nobby Tota à la guitare et Jimmy Campbell aux drums. Donc, un morceau connu qui s'appelle Night and Day.
Rediffusion d'une émission de Principe Actif. Une rediff, quoi. We'll be right back.
Alors, de 85 à 91, Tal Farro a beaucoup tourné en Europe, en duo, ou parfois en quartet aussi, avec son compère, le guitariste de jazz français, Philippe Petit. Il enregistre à Paris... en 91, un album en duo d'ailleurs qui s'appelle Standard Recital. Alors, un film sur sa vie, Talmadge Farro, a été tourné en 1981 par le réalisateur Lorenzo De Stefano. Alors, quelques accords plus loin, nous voici avec Barney Kessel. Alors, lui, il est né en octobre 1923 en Oklahoma. Et il est décédé en Californie en 2004. Alors, il est d'une famille modeste et il s'achète sa première guitare à 12 ans. Il va apprendre l'instrument en autodidacte. Et dès l'âge de 14 ans, il va se produire dans des petites formations locales. Sa principale source d'inspiration est le guitariste Charlie Christian, dont on a parlé dans la première émission. Il semble d'ailleurs que ce dernier soit allé écouter son jeune disciple lors d'un passage en Oklahoma City en 1939. Barney Kessel va ensuite s'installer à Hollywood où il va exercer de petits métiers alimentaires. Alors en 1943, il est membre de l'orchestre dirigé par Ben Pollack qui accompagne le show de Chico Marx. Vous savez, un des frères des Marx Brothers là. Kessel se produit avec de nombreux musiciens de jazz et va commencer à se faire une solide réputation. Et en 1944, on peut le voir dans le court-métrage « Jamming the Blues » de John Milley, aux côtés de Lester Young et Illinois Jacket. Il fait partie des big bands de Charlie Barnett, de Artie Shaw, tout en continuant une abondante carrière en studio. Alors là, on vous propose d'écouter une reprise d'un morceau dans Carmen de Bizet, donc un morceau enregistré en 1959 qui s'intitule Free as a Bird. Donc au vibraphone on va trouver Victor Feldman, à la trompette Ray Lynn, au piano André Prévin, à la flûte Buddy Collette, à la batterie Schleiman et à la basse Joe Mondragon. Voilà, donc j'espère que j'ai oublié personne et que là
c'est bon qu'il va
et que vous allez avoir le bon morceau surtout.